Présence matin.
Présence matin.
Les temps forts de la semaine. Rémi Soulomiac.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, retour sur les interviews de cette semaine dans Présence Matin. Vous le savez, dans chaque Présence Matin, nous recevons 2 à 3 invités par jour à 7h22, 7h36 et 8h06. Comme chaque lundi, Jean Sureda était avec nous pour faire le point sur les résultats sportifs du week-end. Et en ce début de semaine, notre journaliste sportif nous a apporté de bonnes nouvelles du top 14, mais de moins bonnes pour le Phoenix Handball ainsi que pour le club de foot de la Ville Rose.
Et dans ce nouveau week-end de doublon, Toulouse réalise un gros coup.
Défait par Lyon la semaine passée, le Stade toulousain a bien réagi, qui plus est contre le leader du championnat Montpellier. Dans un Ernest Vallon plein, les Rouges et Noirs s'imposent 22-14 et reviennent à un point du Racing 92, deuxième et vainqueur du Stade français 28-22. De son côté, Pau perd lourdement à Clermont 38-7 et Castres bat Brive 37-28.
En football maintenant, folle fin de match, mais toujours pas de victoire pour le TFC.
Une semaine après sa défaite face à Marseille au Stadium, le TFC n'a pu battre Strasbourg, résultat 2-2. Mené dès le retour des vestiaires, les violets, sans envie et avec de grosses lacunes techniques, ont cru inverser le match en fin de rencontre avec le doublé de Sanogo avant que Koné égalise pour Strasbourg à 20 secondes de la fin. 3 minutes de folie pour nous faire oublier 85 minutes d'ennui. Avec ce scénario fou, Michael Debève, l'entraîneur du TFC, se dit frustré.
Mardi, Christophe Berthe, directeur régional économique de la Chambre des métiers et de l'artisanat, est venu nous présenter le dispositif Réparacteur qui s'étend sur toute la région depuis la fin d'année 2017.
Du dispositif Réparacteur que l'on a vu sur les réseaux sociaux, de quoi s'agit-il ?
Alors, le dispositif Réparacteur, c'est une opération qui est menée en collaboration avec l'ADEME.
L'ADEME.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a pour objectif de faire savoir au grand public que la société de consommation n'est pas uniquement un achat à revente. On peut aussi réparer des objets et leur donner une seconde vie. On est dans une structure sociétale où on vous incite à jeter ou, lorsqu'on répare, c'est en changeant tout ou partie de...
Parce que parfois, les produits sont... C'est vraiment l'obsolescence programmée laquelle nous sommes amenés à lutter au quotidien, c'est ça?
Ouais. Ça fait partie, effectivement, de l'opération, de dire que, aussi aux fabricants, qu'il faut faire en sorte de qu'on puisse réparer ces appareils. Parfois, ils sont verrouillés dès la conception.
Et comme chaque mercredi, votre nouveau rendez-vous à l'occasion des états généraux de la bioéthique, Isabelle Honneil recevait Grégoire Jahan, délégué d'Alliance Vita pour la Haute-Garonne. Et ce mercredi, il était question d'e-santé.
Il semble loin le temps où le médecin conservait nos données personnelles sur des petites fiches en carton qu'il avait toujours du mal à retrouver au début de l'entretien. Qu'est-ce qu'on entend par l'e-santé ?
Alors, l'e-santé, c'est l'intégration des technologies de l'information dans le cadre de la santé et des soins. C'est un domaine qui est extrêmement large, puisqu'il va du dossier médical partagé, celui qui permet justement de numériser toutes vos données et que différents médecins puissent avoir accès à vos données, jusqu'à l'utilisation potentielle de robots pour réaliser des soins à l'hôpital ou même des robots privés, en passant par le cadre du développement d'applications qui aident aux soins.
Donc c'est une appellation qui recouvre mille choses diverses. Qu'est-ce qui existe déjà de cet ordre-là aujourd'hui ?
Alors justement, donc je parlais initialement du dossier médical partagé. Donc là, on est dans quelque chose d'assez bas niveau. C'est assez simple justement. L'utilisation des données par différents médecins. Mais ça regroupe aussi, là justement, on parlait des applications qui existent. Ça peut être la mesure de vos données médicales, justement, lorsque vous courez, par exemple, vous utilisez...
Ça existe déjà, hein ?
Ça existe. C'est des applications qui sont réalisées ou qui vous permettent, par exemple, de mesurer votre fréquence cardiaque. Ça rentre dans le cadre de l'e-santé. Il y a aussi le développement justement de la robotisation qui est en cours en France et dans différents pays avec le développement d'algorithmes qui peut permettre justement d'aider au diagnostic pour les médecins.
Ce jeudi, Thibaut de Tulle recevait le père Hervé Gaignard, vicaire général du diocèse de Toulouse, au lendemain du documentaire diffusé sur France 3, Silence de cathédrale. Il a pu expliquer ce que l'église met en place pour accueillir et écouter les victimes d'actes pédophiles.
Hier soir, sur France 3, était diffusé un documentaire intitulé « Pédophilie, un silence de cathédrale ». Son réalisateur, Richard Puech, était à notre micro tout à l'heure. Or, des accusations graves ont été portées dans ce documentaire. Il était difficile à entendre. Et notamment, ce récit qui concerne notre diocèse de Toulouse, Patrice, donc, qui a aujourd'hui 62 ans. Patrick, pardon, qui a aujourd'hui 62 ans, a dénoncé en 2016 l'abus sexuel qu'il a subi à 12 ans par un prêtre. Et, disent-ils dans ce documentaire, le diocèse de Toulouse n'aurait pas inquiété ce prêtre. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous exposer clairement et simplement les faits?
Oui, alors les faits sont les suivants. En effet, donc, en 2016, ce prêtre a contacté et rencontré Monseigneur Robert Le Gall pour lui raconter l'agression sexuelle qu'il avait subie à 12 ans de la part d'un prêtre au petit séminaire de Toulouse dans les années 60-70. Après cette rencontre, donc, Monseigneur Le Gall on a informé la congrégation pour la doctrine de la foi, comme c'est demandé par l'Église.
C'est un service du Vatican, c'est cela?
Voilà, un service du Vatican, donc qui s'occupe donc de gérer ces faits. Et il a également fait un signalement au procureur de la République. Voilà.
D'accord.
Donc la procédure est en cours.
D'accord. Et malheureusement,
il a également rencontré ce prêtre qui a été mis en cause par
le prêtre qui a commis ces actes.
Voilà. Tout à fait.
D'accord. Donc il y a eu une série de rencontres et une série de... Enfin, on peut dire que Mgr Le Gall a effectivement...
Mgr Le Gall est encore en contact d'ailleurs avec Patrick.
Oui.
Il y a eu une conversation téléphonique et une procédure supplémentaire a été mise en place par Patrick lui-même, une enquête canonique déclenchée, semble-t-il, auprès du diocèse de Perpignan.
Et enfin, ce vendredi matin, Isabelle Honneil était en compagnie de Mgr Bernard Ginoux, évêque du diocèse de Montauban, pour faire le bilan sur l'assemblée plénière qui se déroulait cette semaine à Lourdes.
Vous évoquiez ce texte, cette déclaration commune des évêques de France, dans lequel vous appelez à l'urgence de la fraternité. Vous donnez 6 raisons de ne pas légaliser l'euthanasie. C'est un écho au discours d'ouverture de Mgr Pontier, qui disait notamment que les solutions de mort qui sont présentées comme des solutions de progrès et de liberté, choisir ou donner la mort, disait-il, ne peut être que le signe du désespoir et d'une solitude profonde. Ce texte, Mgr Ginoux, vous pouvez nous en présenter les contours?
Oui, c'est un écho à ce que disait Mgr Pontier. C'est aussi un écho à nos préoccupations. Personnellement, ce sont des sujets qui me touchent beaucoup, puisque j'ai été aumônier d'hôpital pendant 7 ans, et j'ai publié juste avant la conférence un texte assez bref. Donc, ce texte de la conférence, qui a été voté à l'unanimité, oui, à l'urgence de la fraternité, nous rappelle déjà qu'il y a une loi qui a été votée au mois de février 2016, qui suivait celle du mois d'avril 2005.
La loi Léo Leticlet, oui.
Qui devait régler un certain nombre de questions sur ce sujet, la loi Claeys-Leonetti. Mmh. D'autre part, l'État proclame la solidarité avec les plus démunis, les plus faibles de notre société. Or, celui qui meurt est parmi ces démunis et ces faibles, l'un des plus faibles, puisque de toute façon, il va vers sa fin. Donc, cette fraternité doit être aussi prise en charge par l'État. Et si la médecine, qui est d'abord... qui est essentiellement, et qui n'est que cela, même soignante, devenait mortifère, ce serait un danger pour le respect de la médecine, pour la déontologie médicale. Le médecin ou le soignant qui irait pour donner la mort serait considéré comme un objet de crainte. Or, comment garder la confiance si on considère le soignant avec crainte? Et même si certains soignants avaient une clause de conscience, ça pourrait se faire. Il est vrai qu'on va distinguer dans un service ceux qui pratiqueraient cette fin de vie et ceux qui ne la pratiqueraient pas.
Mmh.
Alors, ensuite, il y a la question de la liberté. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la liberté. On a beaucoup insisté dans le passé sur la dignité de la personne. Mais la personne est digne jusqu'au bout. Elle est digne quoi qu'il arrive. C'est le regard que nous portons sur elle qui peut la rendre ainsi indigne. Mais elle-même est toujours digne. Et si elle-même, alors c'est la liberté, voulait se tuer, voulait mourir, cette liberté, nous n'avons pas à l'exercer à sa place.
Présence matin.
Présence matin.
Les temps forts de la semaine. Rémi Soulomiac.
L'intégralité de toutes ces interviews sont bien sûr à retrouver sur le site www.radioprésence.com. Les temps forts de cette semaine s'arrêtent ici. Je vous retrouve dès lundi avec Corinne Saint-Félix, Isabelle Honneil et Éric Leclerc à 6h50 pour un nouveau Présence Matin. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end à l'écoute des programmes de Radio Présence.